Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanui, et bienvenue dans cette 31e émission, édition 2019. La dernière fois, au cours des années 1815 à 1829 à Nukuhiva, nous avons vu la mort de Kiatonui et la naissance de son arrière-petit-fils Temuane, tandis qu'à Tahuata, après l'accession au pouvoir de Iotete, le pasteur Crook était revenu installer des pasteurs tahitiens. Je vous avais aussi parlé du passage du deuxième et du troisième navire français dans l'archipel en 1818 et 1822. Je vous avais dit à l'époque que j'avais commandé alors les journaux de leur capitaine. Eh bien, je les ai reçus et je les ai lus. Et 3 mois après avoir enregistré l'émission précédente, je vous présente celle-ci que j'ai intercalée dans ma progression historique. À Noël 1817, depuis le passage du capitaine Marchand en 1791, le navire Le Bordelais est le deuxième navire français seulement à passer par les Marquises. Le Bordelais est armé par Jean-Étienne Balguery, président de la Chambre de commerce de Bordeaux, pour aller troquer en Amérique du Sud et dans le Pacifique des objets qui seront ensuite revendus à Canton en Chine. Le Bordelais est un trois-mâts jaugeant 219 tonneaux, dont l'équipage compte 34 hommes, originaires du Midi de la France. Il est pourvu de 2 canons de 4 et 6 canonnades de 8. Sa coque est doublée d'un carénage de cuivre. Il est commandé par Camille-Joseph de Roquefeuille, lieutenant de vaisseau qui publiera son journal en 1823. À son bord se trouve aussi le chirurgien Yves-Thomas-René Vimont, dont le journal ne sera publié qu'en 1925. J'ai sélectionné les seuls passages de ces journaux qui nous apprenaient vraiment quelque chose de neuf ou qui nous apportaient des précisions intéressantes. Le 24 décembre 1817, le navire jette l'ancre à Taiohae. Du journal du chirurgien Vimont, je n'ai conservé que quelques détails que son capitaine ne donnait pas et que voici. Il dit que les femmes montent à bord dès leur arrivée et qu'au contact des Européens depuis plusieurs années, elles ont pris l'habitude de se laver avant de venir sur les bateaux pour enlever l'huile de coco souvent rance dont l'odeur déplaisait aux étrangers. En tant que médecin, il remarque aussi que les dents des femmes et des hommes sont d'une beauté remarquable tant par la blancheur que pour leur régularité. Une remarque complètement différente, maintenant, il dit que les échasses ne sont de sortie que les jours de fête, les koika. Et il termine en disant que la guerre est permanente contre les Taipi. Il dit aussi que les armes de guerre des gens de Taiohae sont des pics d'une dizaine de pieds, ce qui fait 3 mètres de long, des massues en forme d'aviron et d'autres différemment sculptées qui sont sûrement des casse-têtes ou. Ça, nous en reparlerons dans une autre émission. Passons maintenant au journal du capitaine Camille-Joseph de Roquefeuille, publié sur Internet et qu'on peut trouver et importer gratuitement parmi les livres du monde entier que Google a entrepris de scanner et d'y permettre ainsi un accès gratuit. Le 23 décembre 1817, arrivé à Taiohae, le capitaine note la présence du navire américain La Ressource, capitaine Cornelius Souls, qui est sur place depuis 5 mois où il a recueilli 60 tonnes de santal. Il partira 4 jours plus tard, le 27 décembre, vendre son santal à Canton, en Chine. À son bord, le capitaine de Roquefeuille rencontre M. Ross, l'Américain qui avait survécu au massacre marquant le départ du lieutenant Gamble en 1814. Il leur servira d'intermédiaire pour l'achat du santal. Le 24, Roquefeuille rend visite à Kiatonui sous un hangar élevé au bord de mer sur une plateforme de gros galets. Cette scène se déroule probablement sur le Paipaipikivehine à l'entrée de la vallée Me'ao. Kiatonui se fait appeler Porter, Pota, en souvenir du capitaine américain avec lequel il avait échangé son nom 4 ans plus tôt. On voit là combien cette coutume était importante, puisque des années après le départ de la personne concernée, on continuait à garder son nom. Kiatonui Pota est content de voir enfin un navire français car les fusils qu'il a reçus des Américains sont français, justement, et il les a trouvés de très bonne qualité, fait-il comprendre, à Roquefeuille. Lorsque ce dernier, Roquefeuille, quittera définitivement Taiohae le 28 février 1818, on n'entendra plus parler de Kiato Nui dans aucun journal connu à ce jour. Lorsque le capitaine Lafond de Lurcy visitera Taiohae en 1822, 4 ans plus tard, c'est au chef Keatoi qu'il fera les honneurs de sa goélette. Kiato Nui ne sera plus là. Ayant beaucoup de difficultés à trouver des porcs et du santal, le navire part à Hivao. Le 31, ils sont à Tahaouku, d'où il part en baleinière à Ta'aoua, où ils ne descendent pas à terre sur les conseils de Ross et où les hommes leur paraissent plus farouches, plus vigoureux, plus rudes, plus velus et aussi plus tatoués qu'à Nukuhiva. Ils ne peuvent avoir que quelques cocos, mais pas de santal. Ils retournent à Atuona où ils obtiennent 500 kg de santal contre 500 g de poudre, c'est le tarif. On constate que les naturels étant plus menaçants qu'à Nukuhiva, les Français ne descendent pas à terre. Les transactions se font un peu au large, au-delà des vagues du ressac. On le rapporte tous sur des pirogues ou à la nage. Le 2 janvier 1818, ils visitent Hanahehe et Hanamaate, où ils obtiennent 30 cochons pour 3 fusils. Un peu avant Hanahehe, Roquefeuille note que les Enata ont installé une pêcherie sur une partie surélevée de la côte. Le 3, ils repartent à Hanamaate, où ils ont 31 cochons. Le soir, à Tahaouku, ils obtiennent 19 cochons et quelques kilos de santal. Le 4, ils retournent à Ta'aoua pour essayer d'acheter la baleinière du navire américain Flying Fish qui avait été volé quelques mois auparavant. Ils envoient à terre un émissaire inspecter la baleinière, mais il revient en disant que les Enata ont caché leurs armes à proximité pour attaquer les Français dès qu'ils descendront à terre. Ils quittent la baie de Ta'aoua. Le 5, pendant la nuit, à Tahaouku, des Enata coupent les cordages de leur chaloupe par 2 fois. Et ils attachent une corde au navire pour le retenir et l'attaquer plus facilement le lendemain. Face à ces menaces, ils décident de retourner à Nukuhiva avec 2 tonnes de santal et plus de 80 cochons. Le 11, Roquefeuille va à Hakaui. Et comme Krusenstern 10 ans plus tôt, il est frappé par la haute taille des hommes, mais ils n'ont pas de santal. Lors d'une deuxième visite, il rencontre le chef Pautini, dont il dit qu'il mesure 7 pieds de haut, ce qui fait presque 2 mètres. Krusenstern avait seulement dit 6 pieds 3 pouces, ce qui faisait 1,85 m. Il échange son nom avec Hahuhania Taua, qui devient Roki. Le nom entier de Roquefeuille étant trop difficile à prononcer pour un Enana. Les deux hommes s'entendent bien et Hahuhania apporte souvent des cadeaux à Roki jusqu'à Taiohae. Signe que les temps changent, il porte autour du cou une cordelette à laquelle est attachée une conque marine putooka ornée d'une touffe de cheveux d'un côté et une bouteille d'alcool vide de l'autre. C'est tout un symbole et aussi un très mauvais présage. Le 14, 2 pirogues doubles arrivent de Hivaoa, annonçant leur arrivée en soufflant dans des poux depuis l'entrée de la baie. Les visiteurs sont près de 40 et pour les accueillir, les femmes de Taiohae portent des colliers de fleurs, des tenues de tapa. Elles sont enduites d'huile, elles ont des éventails ou des palmes de latanier, comme ceux qui couvrent aussi les cases des chefs, nous fait remarquer Roquefeuille. Un chef prête aux visiteurs une case où ils s'installent et où ils peuvent entreposer ce qu'ils avaient apporté à échanger contre des fusils et de la poudre. Chacun leur apporte de quoi manger et les jeunes filles viennent leur tenir compagnie. Ils apportent des calebasses, du tissu et déclament aussi un poème en l'honneur de Pakauotei, petit-fils de Kiato Nui, âgé alors de 12 ans. Voilà encore un détail rarement mentionné où l'on voit comment se faisaient encore à cette époque-là les échanges inter-îles. Le 21 février, une volée de fusils annonce la mort d'un autre petit-fils de Kiato Nui, déjà très malade, mais on n'a aucune indication quant à son nom. Et comme Kiato Nui avait 10 enfants, difficile de dire auquel de ses enfants il appartenait. Le Bordelais quitte Taiohae le 28 février 1818. Ohine, te tumunui no
hine te tumunui no matou ne te tai tai o tou eu kai e ia no pu ia ko pena no cu mei o to mai na e te pu renua tahia nu ve te tu munu ino ma ohine te tu munu ino ma to ia no u ia ko e te tumunui no ma ohine te tumunui no ma tou ne te tai tai o tou eo ka hi e ia no u ia ko e
un peu comme Krusenstern l'avait fait en 1804, après avoir rédigé son journal de capitaine, dans la deuxième partie de son journal, Roquefeuille nous dit ce qu'il a appris des Enana pendant son séjour de 2 mois. Tout comme le notait Krusenstern en 1804, la nourriture est difficile à obtenir en quantité à Nuku'hiva, alors qu'à Hiva'oa, beaucoup plus peuplée aussi, on en trouve en abondance si l'on est prudent, car les habitants sont beaucoup plus agressifs. Mais peut-être que les Tei'i préparaient une grande fête Kohika en vue de laquelle ils ne voulaient pas se défaire de leurs provisions. Concernant le Santal, Roquefeuille dit que le meilleur se trouve à Nuku'hiva. En 1810, on pouvait obtenir un chargement complet de très bonne qualité en quelques semaines. Désormais, on n'obtient plus que les restes et il faut au moins 6 mois pour tout récupérer. Il est intéressant de noter que 8 ans ont suffi pour épuiser la ressource naturelle. Les Enana ne veulent plus que des fusils, de la poudre et des cartouches en échange de santal. Ils ne prennent les dents de cachalot que si elles font au moins 3 travers de doigts de diamètre, nous dit-il, c'est-à-dire presque 6 centimètres. En général, c'est un fusil contre 250 kg de santal. Mais le bois pèse tellement lourd que 250 kg, c'est vite atteint. Là, nous sommes en 1817. On comprend maintenant pourquoi en 1842, 25 ans plus tard, Max Radiguet écrira qu'on trouve jusqu'à 2 ou 3 fusils par maison. À propos des Beachcombers, ces Blancs qui vivent aux Marquises et dont nous avons déjà parlé, Roquefeuille a un jugement très lucide. Il écrit que malgré leur petit nombre, ils contribuent à faire perdre aux Indiens, c'est comme ça qu'il appelle les Enana, ils contribuent à faire perdre aux Indiens les qualités qui les distinguaient encore à la fin du siècle dernier. Il est incontestable que la douceur et l'humanité étaient le fond du caractère des Mendocins, antérieurement à leur communication avec les Européens. Quelques années seulement ont amené un changement déplorable dans toutes les îles. Voilà un jugement montrant la clairvoyance de Roquefeuille qui comprend les changements rapides que connaissent les Enana en raison du contact avec les Occidentaux. Notez aussi le nom de Mendoza que Roquefeuille utilise pour parler des Enana. Pour les étrangers, le nom complet de l'archipel étant les îles Marquises de Mendoza, ils en appelaient les habitants Mendocins et Mendocines. Roquefeuille dit encore « Les hommes marquisiens sont d'une stature supérieure à la plupart des Européens. Leur beauté aussi est supérieure. Les femmes ont la même taille que les Françaises, mais sont moins réservés qu'elles avec les hommes. Tous sont d'une propreté remarquable. » Et il ajoute « C'est incomparablement la plus belle espèce d'homme que j'ai vue, tant par l'élévation de la taille et la beauté des formes que pour la force. Jamais on n'en voit de mal formé. » Il continue « Les hommes portent un morceau d'étoffe végétale dont ils font plusieurs tours autour de la ceinture. Quand un Mendoza n'a pas de ceinture, comme il arrive parfois, il ne manque pas de se fabriquer une ligature qui recouvre et met à l'abri la partie intime de son corps. Une fois la ligature faite, on peut se présenter en public. Et voilà un témoignage de plus concernant cette coutume décrite par Crook en 1798, par Krusenstern en 1804 et par Porter en 1813. C'est donc bien vrai que les anciens hommes marquisiens se ligaturaient le prépuce, c'est-à-dire qu'ils étiraient la peau de leur prépuce quand il avait été super-incisé, et ils l'enveloppaient pour ne pas qu'on le voie, pour pas qu'on voie le gland qui était la partie la plus intime. Roquefeuille continue. Les hommes les plus élégants, qui portent toujours une cape kahu, ont la tête rasée sur un pouce, soit environ 3 cm de large, depuis le front jusqu'à la nuque. Tout le milieu de la tête est rasé. De chaque côté, les cheveux sont très longs, noués en pompons et retombent sur les épaules. Peu de femmes ont une longue chevelure. Presque toutes ont les cheveux coupés au ras des épaules. Personnellement, c'est moi qui parle maintenant, je ne m'en étais jamais aperçu, mais en regardant à nouveau les gravures de Max Radiguet, exécutées en 1842, 20 ans plus tard, c'est exactement ce qu'on peut voir. Toutes les femmes ont les cheveux à la hauteur des épaules. La mode des cheveux très longs tombant sur les fesses n'est donc pas une tradition ancestrale, mais une initiative beaucoup plus récente, peut-être influencée par la vahinée tahitienne. Il continue. Beaucoup de femmes portent un ornement très long et très ouvragé, putayan, dont la partie inférieure passe par le lobe de l'oreille, tandis que l'extrémité est fixée à une petite cheville qui vient s'accrocher dans la partie supérieure du cartilage qu'elle traverse. Les oreilles sont donc percées en haut et en bas. Les femmes n'aiment pas qu'on touche à leurs cheveux et s'interposent quand on veut toucher à la tête de leurs enfants. Si vous avez suivi mes émissions avec attention, tout le monde sait bien que la tête est en tapu, personne ne pouvait y toucher, et les étrangers non plus. Quand des amis se rencontrent, ils se frottent nez à nez. Mais c'est un témoignage d'amitié peu fréquent. Je n'ai reçu cette faveur que de mon ami Hahuhania di Rocky. Voilà une remarque intéressante reprise en 1822 par Lafond de Lurcy à propos de cette coutume qui se nomme Rocky, dont la signification première est « humer, renifler ». On note que les marquisiens ne se frottent le nez qu'en deux circonstances. Quand ils rencontrent une personne avec laquelle ils ont échangé leur nom, ou bien à la mort d'une personne pour lui signifier un dernier adieu. En 1844, c'est ce que nous verrons aux cérémonies funéraires de Niehitu, oncle de Temuana. Temuana se lèvera et viendra frotter son nez contre celui de son oncle décédé en signe d'adieu. Ce frottement nez à nez n'a rien à voir avec les bises que nous nous donnons tous les jours. Concernant le vol, Roquefeuille dit que les Enana se réservent de voler tout ce qui n'est pas bien gardé. Le seul déshonneur qu'ils attachent au vol, c'est le déshonneur de se faire prendre. Le vol est une affaire privée qu'ils règlent entre eux. Ils ne connaissent pas l'assassinat en dehors des victimes humaines. Et maintenant, il parle de la langue marquisienne, dont il dit qu'elle est douce, harmonieuse et facile à prononcer. Ceux qui essaient de l'apprendre apprécieront. De Roquefeuille termine son livre en racontant un épisode tragique qui s'était déroulé à Wapow en avril 1815, mais qui mérite d'être rappelé. Le brick anglais Matilda, capitaine Fowler, était à l'ancre à Hakahau, quand il fut pillé par des Enana et 5 Tahitiens du bord qui avaient déserté. Ils coupèrent les cordes d'ancrage et le navire alla se fracasser contre les rochers. L'équipage survécut avec le capitaine qui se lia d'amitié avec le chef nommé soit Nuhatu, soit Nuahitu, soit Nouahitu. Les gens de Wapow sauront trouver la vraie prononciation. La population voulait exécuter l'équipage, mais le chef refusa, demandant qu'on le tue, lui et son fils, peut-être Heato, pour ne pas être témoin de ce massacre. Les étrangers furent sauvés. Bien que tragique, l'incident a une fin heureuse et des conséquences positives. En effet, un acte d'alliance de non-agression appelé Kopaake est établi qui prévoit la paix entre étrangers Haoé et Enana de l'île. C'est le chef Nuhatu qui est à l'origine de cette disposition. Et cette situation perdurera pendant une quarantaine d'années. Soucieux de vous faire partager ces aventures, je les ai téléchargées et publiées sur mon site internet teo.com sous la rubrique « Textes anciens » afin que vous puissiez tous en profiter. Chers amis, j'espère que ces détails d'un autre temps vous auront plu autant qu'à moi. La prochaine fois, nous écouterons le témoignage tout aussi intéressant d'un autre capitaine français ayant fait escale aux Marquises en 1822. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à London Jones pour sa chanson
Te Tumunuie, qui célèbre la langue marquisienne, base de la culture, fierté de tous les Enana Enata, et créée pour chanter la paix.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf, kopo K-O-P-O, ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai, o oaiho.
No te ati enata.